puisqu'il est 8h pile, le journal de Simon Rubin.
On voit nos lits se remplir, on voit nos réanimations se saturer. Le flux de patients arrivés ne se tarit pas.
L'hôpital en pleine tempête épidémique. Dans ce journal, on va faire le point notamment en région Île-de-France. Le système arrive à saturation. Les soignants sont au bord du point de rupture. La vague annoncée s'abat sur l'hôpital français.
Voilà pourquoi le gouvernement veut aller vite et a lancé des annonces très fortes, comme la commande d'1 milliard de masques à la Chine. Si ma mémoire est bonne, il y a quelques jours, ce n'était que 250 millions, en espérant que tous ces masques arrivent à temps.
Vous entendrez l'inquiétude, les doutes et la colère de ceux et celles qui tenaient nos bureaux de vote il y a 2 semaines et qui se retrouvent aujourd'hui malades du Covid-19. Certains sont prêts à porter plainte contre l'État. Et puis, si vous avez des symptômes, sans nécessité d'aller à l'hôpital, on vous propose une appli pour téléphone mobile pour réaliser une consultation depuis chez soi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Vous vous réveillez tout juste et le jour lui-même se lève à peine et imaginez qu'en ce moment dans les hôpitaux français c'est l'effervescence, agitation hors normes. En Île-de-France notamment, les soignants voient arriver la vague épidémique tant redoutée. En France, 2314 personnes sont mortes des suites du Covid-19, dont 319 ces dernières 24 heures. Situation de plus en plus préoccupante en Île-de-France où 1585 lits étaient occupés hier soir par des patients Covid-19 en réanimation. Le récit de la grande bataille du soin qui débute avec Hélène Terzian.
Eh bien, la tension monte, donc c'est une course de vitesse.
Pour que cette course soit gagnée, Martel Bertrand-Guidet, chef du service de médecine intensive réanimation de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, tout doit être fait pour augmenter la capacité d'accueil en réanimation. Hier, 1585 lits étaient occupés en Île-de-France par des patients contaminés. C'est plus 14% en un jour. Quelques centaines de lits peuvent encore être ouverts jusqu'à ce soir. Mais pour continuer à désengorger les hôpitaux, en plus du transfert de quelques malades vers les régions les moins touchées, désormais, les patients dont l'état de santé s'améliore peuvent être transférés vers des unités de surveillance continue, sorte de maison de convalescence spécialisée, poursuit le professeur Guidet.
On a fait sortir 2 malades de notre service de réanimation qui n'avaient plus besoin d'une prise en charge extrêmement lourde et qui avaient toujours besoin de ventilation artificielle. On les a adressés dans des centres qui peuvent assurer la ventilation sur des périodes longues jusqu'à l'arrêt total de la machine, ce qu'on appelle le sevrage de la ventilation artificielle. Encore une fois, tout ce qui peut concourir à libérer des lits de soins critiques en Île-de-France, c'est bon à prendre.
Une mobilisation générale indispensable pour anticiper la semaine qui arrive en région parisienne. Elle sera certainement la pire, estiment les spécialistes.
Et ce combat ne fait que commencer à marteler d'ailleurs le Premier ministre. Les jours à venir vont mettre à l'épreuve la cohésion, la solidarité et surtout les services publics français.
Et hier, le gouvernement a reconnu des défaillances ou du moins des problèmes, en particulier sur les commandes de matériel et les commandes de tests. Et puis, il y a cette annonce du ministre de la Santé, la commande d'1 milliard de masques, Johanna Chabas.
Face aux inquiétudes, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a voulu rassurer avec ce chiffre faramineux, 1 milliard de masques commandés. Ils viennent principalement de Chine. Pour faciliter leur arrivée, un pont aérien a été mis en place entre le pays et la France. Les masques doivent être livrés en plusieurs lots et sur plusieurs semaines, mais le ministre reste prudent.
Aucun pays au monde ne fait face à sa demande de masques actuellement. Il y a donc une recherche très active. Et dans le même temps, une vigilance accrue de la part des pays producteurs qui veulent s'assurer que si l'épidémie devait repartir dans leur pays, ils pourraient y faire face, ce qui est compréhensible. Ainsi, je n'ai la certitude que les importations sont effectivement sur notre territoire national que à la minute où l'avion qui doit amener les masques atterrit sur le tarmac des aéroports français concernés.
En attendant, la France continue de puiser dans ses stocks et nos réserves ne sont pas infinies, rappelle Olivier Véran. Selon le ministre, plusieurs entreprises ont aussi augmenté leur production pour répondre aux nombreux besoins. Actuellement, la France fabrique 8 millions de masques par semaine, alors qu'elle en consomme 40 millions.
Et pour les jours qui viennent, à quoi s'attendre? Il en a aussi été question hier lors de ce grand point presse avec les ministres. Écoutez notamment Arnaud Fontanet, épidémiologiste de l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique.
Il a beaucoup parlé des vertus du confinement et il a indiqué que les premiers résultats pourraient être espérés en fin de semaine prochaine.
Avec ces mesures du contrôle de l'épidémie, qui sont à la fois les mesures barrières et de distanciation sociale, l'objectif, c'est de limiter les contacts, de limiter les transmissions secondaires. Vous comprendrez bien que si chaque personne malade infecte moins d'une personne, eh bien l'épidémie va décliner. Pour pouvoir estimer l'impact de ces mesures de confinement sur, une fois de plus, l'indicateur principal qui est le nombre de cas quotidiens d'admission en réanimation, il va falloir attendre un peu. Les premiers impacts des mesures de confinement, on ne pourra le voir, et on l'espère, qu'en fin de semaine prochaine, c'est les 3 semaines qui séparent le moment de la mise en place du confinement et le moment où ces personnes arriveront en réanimation.
Arnaud Fontanet, épidémiologiste de l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique.
On a véritablement basculé dans un autre monde. Souvenez-vous de ce que vous étiez sur le point de faire il y a 2 semaines, par exemple. Eh bien, par exemple, c'était jour du premier tour des municipales.
Et depuis ce premier tour, des témoignages d'assesseurs, d'assesseuses, de présidents et présidentes de bureaux de vote, aujourd'hui diagnostiqués Covid-19, se multiplient. À Paris, Marseille, Angers, Montpellier, impossible évidemment d'établir un lien avec certitude. Mais ils sont nombreux à se poser des questions, voire à envisager de porter plainte. Claudia Bertram.
Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai été mis en danger et je ne suis pas le seul à avoir été mis en danger.
Président d'un bureau de vote dans le 17e arrondissement de Paris, Paul Hatz a été diagnostiqué Covid-19 quelques jours après le premier tour.
Moi, je m'en suis tenu au discours qu'a tenu le président de la République. Je suis allé présider ce bureau de vote en étant convaincu que ce n'était pas plus dangereux que tout simplement aller faire ses courses. Lors de cette élection, j'ai vu 606 électeurs. Ça peut pas être un hasard.
Un hasard de calendrier qui sème aussi le doute chez Charlotte Rocher, assesseur dans le 18e.
Au niveau du timing, ça correspond. Au bout de 5-6 jours, j'ai commencé à avoir des premiers symptômes. Mais après, c'est difficile de savoir où on chope quelque chose.
Des assesseurs malades, mais aussi des militants qui ont fait campagne. Et des candidats, comme Shafia Zemmoul à Saint-Fond dans le Rhône. Elle compte 10 personnes contaminées dans son équipe, dont 4 hospitalisées. Elle tient le gouvernement pour responsable.
J'ai contacté mon avocat. On est en train de mettre en place une plainte contre le gouvernement parce que j'estime que le gouvernement nous a mis en danger en maintenant le premier tour.
Et comme elle, nombreux sont ceux aujourd'hui qui ne comprennent plus pourquoi ce scrutin a été maintenu.
Et on en parlait au début de ce journal, la situation donc est de plus en plus tendue, comme on dit, c'est un euphémisme, dans les hôpitaux. C'est le cas également pour les cabinets des médecins généralistes et voilà pourquoi les professionnels mettent le paquet sur les consultations à domicile. Et
sachez qu'il existe une application pour téléphone mobile, un dispositif de télé suivi à domicile, ça s'appelle Covidom comme Covid et domicile, c'est lancé par la PHP et ça permet déjà de suivre 19 000 patients en Ile-de-France. Virginie Salmen.
250 nouveaux patients s'inscrivent toutes les heures via leur médecin traitant. Alors c'est une appli sur le smartphone qui envoie aux malades dans leur lit chez eux 1 à 2 questionnaires par jour par SMS. On leur apprend à surveiller leur constante comme ferait le médecin, température, rythme cardiaque, fréquence respiratoire et quand l'un des signaux est mauvais, une alerte est envoyée à une armée d'étudiants en dentaire, médecine ou soins infirmiers encadrés par des médecins. Mathis, 21 ans, étudiant kiné volontaire, a commencé lundi.
Raconter le cas d'un patient, là c'était une alerte rouge tout à l'heure, qui avait effectivement des difficultés donc respiratoires, on l'entendait rien qu'en parlant. On a été obligé d'appeler le SAMU, on l'a appelé dans les minutes qui a suivi l'alerte rouge. On a un taux de réponse qui est à 9 minutes pour une alerte rouge maximum. J'en ai traité une tout à l'heure en 1 minute.
C'est un cardiologue, le professeur Patrick Jourdain, qui a dirigé le montage de la plateforme début mars, en quelques jours seulement, en voyant la vague de l'épidémie arriver.
Moi j'ai une patiente qu'elle avait appelée X fois le SAMU, il y a d'autres patients qui vont plein de fois aux urgences, ils restent 12 heures et après ils reviennent chez eux parce qu'il n'y a pas de traitement spécifique. Alors que là, ces patients, on peut les maintenir à domicile, mais à contrario, on peut nous anticiper une aggravation, c'est-à-dire qu'on sent que le patient commence à être moyen.
Au bout du fil, il n'était que 5 début mars, ils sont désormais une centaine.
Et l'application qui s'appelle Covidom, sachez aussi qu'il y a le site maladiecoronavirus.fr qui permet de faire le point sur vos symptômes et de vous orienter si besoin.
Et on va terminer avec un beau geste, on en a tous bien besoin je pense, du côté du Paris Saint-Germain, joueurs et supporters unis pour soutenir les soignants et les plus faibles. Et
le club parisien a multiplié les initiatives, 1500 maillots collector vendus, 175€ l'unité, au bénéfice de la PHP et puis des dons de joueurs aussi. Enfin, les supporters mobilisés, le reportage de Julien Froment.
On a été dans des hôpitaux de Créteil, de Longjumeau, d'Orsay, de Gonesse, de Nanterre et de Sarcelles.
Nicolas est membre de la branche solidarité du collectif Ultra Paris. En temps normal, cette antenne fait des maraudes dans les rues, collecte des jouets pour les enfants. Aujourd'hui, elle soutient les hôpitaux de la région parisienne.
On fait des récoltes au niveau boulangerie, au niveau pizzeria, pour leur apporter des denrées alimentaires qui sont bénéfiques au niveau du moral.
Des dons des supermarchés, mais aussi une cagnotte pour financer leurs différentes actions. Un élan de solidarité naturel pour Romain Mabille, président du collectif Ultra Paris.
Les vraies valeurs
cœur du mouvement Ultra, c'est de la solidarité, du respect, de l'entraide. À Paris, on chante dans le malheur ou dans la gloire. On est en plein dedans. En ce moment, c'est compliqué, mais c'est pas pour ça qu'on se désolidarise. On essaie de continuer le travail.
Le club, lui, a fait un don de 100 000 euros au Secours Populaire. La vente de maillots inédits a aussi rapporté 260 000 euros aux hôpitaux de Paris. Sabrina Delannoy, directrice adjointe de la Fondation PSG.
Et ce qu'on espère, c'est aussi de se dire, ok, un club comme le Paris Saint-Germain a le devoir d'apporter sa pierre à l'édifice, mais aussi peut-être d'être un peu en tête et de pouvoir embarquer avec lui plein d'autres élans de personnes qui ont envie aussi de soutenir.
Les joueurs se sentent aussi concernés, sans révéler le montant. Kylian Mbappé a par exemple fait un très gros don à la Fondation Abbé Pierre pour aider les personnes sans domicile fixe.
Voilà, et c'est sur ce reportage de Julien Froment pour Europe 1 que se conclut le journal de 8h de Simon Rubin. Merci beaucoup Simon, vous revenez tout à l'heure à 9h. Hein.
À tout à l'heure.
Merci beaucoup, il est 8h11 exactement.